Deuxième partie, les Louvres du Métropolitain. Pour gêner l'approche des escadrilles ennemies, on installa dans le ciel de Londres d'énormes ballons emplis de gaz inflammables. La population ne mit pas longtemps à surnommer ces aérostats des saucisses. Les saucisses en question évoquaient pour amis de gigantesques baleines grises, prisonnières du câble les retenant amarrées au sol. L'utilité de ces ballons était par ailleurs fort contestée par les pilotes de la RAF. Ils ne sont pas placés assez haut pour constituer un véritable obstacle pour les bombardiers Bosch, expliqua l'un d'eux à la jeune femme. Les nazis ont un plafond de vol plus élevé. En revanche, ces foutues vessies sont dangereuses pour les gars de chez nous, qui décollent en catastrophe au premier scramble. Mots qui hurlaient par les haut-parleurs signifiaient aux pilotes de chasse qu'ils devaient rejoindre leur appareil de toute urgence et se préparer à décoller pour une mission d'interception. Hugues partageait l'opinion des pilotes. Deux de ses camarades avaient trouvé la mort en heurtant une saucisse. La poche de gaz s'était transformée en boule de feu, carbonisant leur Spitfire en plein vol. Et puis, continua-t-il, il n'y a pas que ça. Une fois qu'elles ont éclaté, les débris des vessies enflammées retombent sur les maisons environnantes, déclenchant des dizaines d'incendies. « J'ai vu cela une fois, » murmura Maggie, les yeux perdus dans le vague. Les morceaux de toile flottaient dans le vent. On aurait dit de grands oiseaux dont la foudre aurait allumé les plumes. Ils battaient des ailes. C'était magnifique et horrible tout à la fois. L'un d'eux, à bout de force, s'est posé sur mon cottage. Une belle cigogne de flamme, si belle. Sa voix se cassa et elle se cacha le visage dans les paumes. Deux jours plus tard, alors qu'il se trouvait sur la plateforme de guet, Hugues essaya de jeter Amy dans le vide. Maggie s'interposa une fois de plus, l'empêchant de parvenir à ses fins. « Tu ne comprends pas ?» hurla le jeune homme à bout de nerfs. « La guerre, c'est à cause d'elle. Tu n'as pas encore pigé ? C'est Hélène, Hélène de Troie. Des millions de pauvres gars vont crever pour ses beaux yeux. Si elle meurt, les Boches rentreront chez eux. Ils veulent la récupérer pour la punir de sa trahison. Si on fait le travail à leur place, la paix reviendra, du jour au lendemain. Je peux être celui qui arrangera tout. Laisse-moi faire, Churchill me décorera au front des troupes. J'aurai ma statue à Trafalgar Square, je serai plus grand que Nelson et Hamilton réunis. » Il sanglotait à présent. Amy luttait pour discipliner les battements de son cœur. Elle avait eu peur. Le gosse l'avait prise au dépourvu, lui empoignant les chevilles avec une force insoupçonnable. Sans l'intervention de Maggie, elle serait passée par-dessus la rambarde pour s'écraser dans la cour intérieure. « Le mieux, ce serait que tu t'en ailles, » lui murmura la démente après l'avoir attirée à l'écart. « Je t'aime bien, mais tu n'es pas des nôtres. Je l'ai vu tout de suite. Tu ne t'en rends pas compte, c'est tout. Je n'ai pas envie qu'il t'arrive malheur. Débrouille-toi pour t'en aller. » Hugues ne te laissera pas en paix, et si tu restes là, il viendra une nuit te trancher la gorge. Tu n'as qu'à dire que tu as retrouvé la mémoire. Ta copine, l'infirmière, cette Libye, elle arrangera tout. Deux jours plus tard, un ballon de barrage, l'une de ces saucisses qui flottait au-dessus de l'hôpital, fut percuté par un Spitfire dont l'empennage avait été réduit en miettes par un tir de Stuka. L'énorme masse de gaz en suspension explosa. Une fleur de feu s'ouvrit dans le ciel, tandis que des débris enflammés pleuvaient sur les toits, telle une pluie de lave éructée par un volcan. 15 incendies se déclarèrent en même temps. En l'espace de 10 minutes, la chapelle du Saint-Job se mit à crépiter comme une bûche dans l'âtre. Tandis que les pompiers essayaient vainement de maîtriser le sinistre, un ordre d'évacuation générale fut lancé. « Au métro !» criaient les infirmières. « Tout le monde se dirige vers la bouche de métro !»« Pas de panique, restez en file indienne !» Depuis quelques semaines, en effet, la population londonienne avait pris l'habitude de descendre dans le métropolitain à chaque alerte. Cette initiative n'avait pas reçu l'approbation du gouvernement, qui entendait conserver la maîtrise des lignes souterraines pour déplacer ses troupes en cas d'invasion. Des ordres avaient été donnés pour que les fonctionnaires cadenassent systématiquement les grilles des bouches d'accès dès la dernière rame rentrée au dépôt. La populace, elle, l'entendait autrement. Un soir, les Londoniens ulcérés avaient forcé les dites grilles pour prendre possession des quais. On n'avait pas osé les expulser manu militari, bien que le Thiou fût considéré comme un territoire hautement stratégique. Depuis, une masse grouillante dont on n'arrivait pas à estimer l'importance vivait sous terre, campant au long des stations dans des conditions insalubres. La nuit, expliqua Libby qui s'était empressé de venir récupérer Amy dès l'ordre d'évacuation lancé, l'éclairage est coupé, si bien que les stations sont plongées dans le noir. Pour y voir quelque chose, on dispose de lampes à pétrole ou de chandelles. Il n'y a pas de toilettes publiques, si bien que les gens vont se soulager dans les tunnels. L'odeur est effroyable, mais il paraît qu'on s'y habitue. Ne t'éloigne pas de moi. Si un mouvement de panique se déclenche, ne te laisse pas entraîner par la foule, tu serais piétiné. Le mieux, c'est de sauter du quai, directement sur les rails. La nuit, les voies ne sont pas alimentées. Tu ne risques donc pas de t'électrocuter. Abasourdi, Amy se laissa tirer vers la station dont la bouche béante avalait sans discontinuer malades, médecins et infirmières. Derrière elle, l'incendie ronflait, dévorant les anciens bâtiments du St. Job's. Elle entendait les fenêtres exploser, les poutres s'effondrer, tandis qu'une chaleur infernale lui rôtissait le dos et la nuque. Bizarrement, elle eut l'impression d'avoir déjà vécu cette scène dans une vie antérieure. Une vieillerie pareille, soupira Libby. Le feu n'en fera qu'une bouchée. Amy ne se retourna pas. Elle était trop occupée à éviter de se tordre les chevilles dans l'escalier du métro. Les hommes de la Home Guard essayaient d'aiguiller les fuyards vers différents couloirs afin d'éviter l'engorgement. L'obscurité rendait la chose difficile. Amy se cramponnait à la main de Libby. Elle ne se rappelait pas avoir pris le tube une seule fois dans sa vie. Elle avait l'illusion de descendre aux enfers en compagnie d'un millier d'autres condamnés. Les cris, les ordres, les protestations s'entrecroisaient, finissant par se fondre en un vacarme effrayant. Enfin, l'odeur la submergea, rémulgue de crasse et de misère, pestilentielle. « Des tas de gens vivent là, à demeure, » lui chuchota Libby. « Soit parce qu'ils n'ont plus de maison, soit parce qu'ils ont peur des bombardements. Un jour, ils descendent dans le métro et n'en remontent plus. Les types de la Home Guard n'osent pas les expulser. » Les deux jeunes femmes titubaient, portées, soutenues par la foule invisible s'engouffrant dans les ténèbres. Çà et là, des lumignons palpitaient, indiquant la direction à suivre. Amy vit qu'il s'agissait de lampes à pétrole ou à acétylène. Elle distingua un enchevêtrement de tubulures de planches, des couchettes superposées comme celles des baraquements militaires. Des enfants se mirent à pleurer, terrifiés par cette horde clopinante qui jaillissait des couloirs pour prendre possession du quai. « Mettons-nous là, » décida Libby. « Surtout ne t'éloigne pas, tu te perdrais dans les galeries. Mieux vaut rester groupé, on ne sait jamais qui rôde dans l'obscurité. Ce genre de promiscuité attire les maniaques. Et nous ne sommes pas entre gens du meilleur monde. Mieux vaut se montrer prudente. Compris ? D'accord, Alta Ami, je ne broncherai pas. » « Bien, » soupira la grosse fille. « Reste tranquille, ne panique pas. Je dois aller aider les infirmières, c'est mon boulot. Je suppose que la lumière va se rallumer après l'alerte. C'est juste un mauvais moment à passer. Respire lentement. » Amy s'assit, le dos contre le carrelage humide de la paroi. Les silhouettes allaient et venaient, se heurtant, s'insultant parfois. Des mères suppliaient leurs enfants de ne pas s'éloigner. L'air lui parut irrespirable. Elle se demanda si elle était en sûreté, ainsi perdue au cœur de la foule, ou si, au contraire, elle se trouvait plus que jamais exposée. Quelqu'un aurait pu s'approcher d'elle et lui flanquer un coup de couteau dans le ventre sans que personne ne le remarque. La cohue, les ténèbres, autorisaient tous les crimes. Elle se recroquevilla dans son coin, tournant vivement la tête de droite et de gauche pour détecter un éventuel assassin. Tout lui parut menaçant. Le prince crapaud était peut-être déjà là, se frayant un chemin à travers les fuyards pour s'approcher d'elle. Viendrait-il bientôt chuchoter à son oreille et en allemand, comme il l'avait déjà fait à l'hôpital, « Jolie rouquine ». Non, elle ne voulait plus entendre ces mots. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Qu'il la laisse en paix. Si elle avait jadis appartenu à la cinquième colonne, aujourd'hui elle n'était plus bonne à grand-chose, puisqu'elle avait tout oublié de ce qu'on lui avait enseigné à l'école d'espionnage. Il ne fallait plus compter sur elle. Elle ne souhaitait pas être mêlée à ces sabotages, ces meurtres qui se préparaient dans l'ombre. Elle ne comprenait rien à ses folies. Comment avait-elle pu, un jour, se porter volontaire pour de telles opérations? J'étais probablement très différente de ce que je suis aujourd'hui, se dit-elle. J'avais des convictions, une certaine idée du devoir. De cela, il ne me reste pas l'ombre d'un souvenir. Je ne sais plus quelle est ma place dans ce monde de fous, ni ce que je dois y faire. On la bouscula. Elle essaya de se faire plus petite. On la bouscula encore. Où qu'elle aille, il n'y aurait donc jamais le moindre endroit pour elle. Cécile Divonne se leva pour glisser un peignet dans le compteur à gaz, car la lumière menaçait de s'éteindre. Comme d'habitude, il susautait le tuyau de sa pipe en produisant un bruit écœurant. « J'ai reçu des ordres d'en haut, » murmura-t-il en se rasseyant. La situation dans le métro les préoccupe. Les choses sont en train de déraper. Il se mit à fouiller dans l'amas de paperasse encombrant son bureau, joua un instant avec un coupe-papier. Chaque objet effleuré produisait un nuage de poussière. Rupert Merridew demeura immobile, observant le manège de son chef avec ironie. Qu'avait-il de commun avec ce petit bonhomme empaqueté de tweeds feutrés? Plus rien, assurément. Au cours de la semaine passée, il avait abattu deux espionnes sans en référer à quiconque. Chaque fois, il avait pris soin de maquiller l'exécution en crime crapuleux. Il était content de lui, sa technique s'affinait. Plus il tuait, plus son instinct se développait. Désormais, il lui suffisait de croiser le regard d'une fille pour savoir s'il s'agissait d'un agent du Reich. C'était comme s'il lisait en elle un livre ouvert. Cela ne s'expliquait pas, c'était un don. Il remerciait le ciel de le lui avoir accordé. Le métro constitue un réseau stratégique de première importance, reprit Divonne. En cas d'invasion, les rames serviront à transporter nos troupes à l'abri du feu de l'ennemi. On y entreposera également d'importantes quantités de munitions. Les Boches le savent. Ils vont essayer de le saboter, c'est évident. « Comment s'y prendront-ils ?» demanda Rupert pour avoir l'air de s'intéresser à la conversation. « Facile, hélas !» soupira Divonne. « Certains tunnels passent sous la Tamise. Il suffirait d'y provoquer une grosse explosion pour que la voûte s'écroule. Aussitôt, le fleuve s'engouffrerait dans les souterrains. Tout le réseau serait inondé en l'espace d'une heure. Inutilisable. Jusqu'à présent, les stations étaient bouclées. Mais la populace a forcé les grilles s'installant sur les quais. Difficile de la faire chasser par la troupe à la force des baïonnettes. Beaucoup parmi ces gens sont devenus des vagabonds. Ils n'ont plus de maison, plus d'abri. En haut lieu, on craint que des saboteurs nazis ne se glissent parmi les réfugiés. En bas, c'est l'anarchie, la cour des miracles, le cloaque. On essaye bien sûr de reprendre les choses en main, mais il faut du temps. En attendant, les salopards de la cinquième colonne ont beau jeu d'explorer nos tunnels en toute liberté. Il nous faut quelqu'un en bas, pour les démasquer. Un homme à nous qui se ferait passer pour un vagabond. Rupert se redressa, sourit. « Et vous avez pensé à moi ? » fit-il avec une certaine suffisance. « Oui, » avoua son supérieur. « Vous n'avez pas l'air d'un militaire. » C'est un atout non négligeable. Si vous mettez la main sur quelque chose, vous pourrez espérer une belle promotion. Le sourire de Merridew s'accentua. Il se moquait bien des promotions dorénavant. il était au-delà de ses sottes vanités. Depuis qu'il avait entamé sa croisade secrète, il déniait toute légitimité à ses chefs. Qu'avait-il à faire de leur approbation ou de leur pauvre récompense? Les grades, les médailles, de la verroterie pour indigènes, des couronnes en fer-blanc pour rois de théâtre. Barbouillez-vous le visage à la suie, enfilez un vieux manteau et mêlez-vous aux gens qui campent sur les quais, continua Divonne. Ce serait bien le diable si vous ne repériez pas quelque chose de suspect. Si cela se produit, interrogea Rupert, s'amusant à jouer les candides, dois-je intervenir moi-même? Surtout pas, halta Divonne. Vous êtes trop jeune, inexpérimenté. Donnez l'alarme et laissez les spécialistes s'en charger. Rupert prit congé en sifflotant. Il lui plaisait d'être considéré comme un incapable, un fils de bonne famille planqué qui joue aux soldats. Tant que les autres verraient en lui un aimable amateur, il serait à l'abri. En passant devant une vitrine, il s'examina de la tête aux pieds. Son regard. Il lui faudrait surveiller son regard. Il avait toujours entendu dire que le regard d'un homme change dès qu'il a commencé à tuer. « Ce serait bête de me trahir, songea-t-il. Il est de première importance que je m'entraîne à conserver une expression idiote. Jouer les benets, oui, c'est ce qu'on attend de moi. » Tirant son carnet de sa poche, il l'ouvrait à la page des exécutions prévues. Trois noms s'y trouvaient barrés. Pour l'heure, un seul subsistait intact, Harmony Sweetheart. Il va falloir s'occuper d'elle, se dit-il, avant qu'elle ne s'évanouisse dans la nature. Je ne sais pas à quoi rime son petit numéro d'amnésique, mais il ne m'a jamais convaincu. Il se prit à réfléchir aux moyens d'éliminer la jeune femme. Puisqu'elle était à l'hôpital, le plus simple serait de lui inoculer un poison. Oui. Il n'aurait qu'à l'attendre au détour d'un couloir, une seringue dissimulée au creux de la main, et lui enfoncer l'aiguille dans la jugulaire. On mettrait sa mort sur le compte d'une embolie, d'un caillot remonté au cerveau, et le tour serait joué. Oui, ça semblait un bon plan. Impatient de passer à l'action, il prit la direction de St. Job's. Ces derniers jours, il avait vécu coupé du réel, tout à la préparation des exécutions secrètes. Aussi fut-il tout étonné de se retrouver en face d'un monceau de ruines calcinées. Le St. Job's Infirmary avait brûlé comme un mannequin d'osier. Quand il essaya de se renseigner auprès des représentants de la Home Guard, on lui répondit que les occupants du bâtiment, médecins et malades, avaient provisoirement trouvé refuge dans le métro. « Tiens, tiens, ricana-t-il intérieurement. Quelle heureuse coïncidence! Une espionne se cache au St. Job's et voilà la baraque partie en fumée. Je vois clair dans le jeu de cette chienne. Elle a mis le feu à l'hôpital pour avoir l'occasion de descendre dans le métro. Planquée au milieu des malades, elle ne risque pas d'être repérée. Elle va profiter de la situation pour miner les tunnels. Il faut que je la retrouve pour la mettre hors d'état de nuire. Et cela sans perdre une minute. » Il inspira une grande goulée de cet air au parfum de suie qui flottait sur les ruines. Il comprenait enfin pourquoi Amy Sweetheart s'était présentée à l'hôpital avec une blessure superficielle à la tête. Tout avait été mûrement préparé. Quant à sa pseudo-amnésie, sa seule fonction avait été de maintenir la malade dans les lieux en attendant qu'elle puisse bouter le feu aux installations. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une blessée parmi tant d'autres. Une anonyme dissimulée dans la foule entassée sur un quai souterrain. Bien pensée, oui. Vraiment bien pensée. Elle était rusée, dangereuse. Les autres espionnes s'étaient laissées tuer sans difficulté. Il n'en irait pas de même pour Amy Sweetheart. Rupert le pressentait. Enfin, songea-t-il en proie à une soudaine bouffée d'exaltation. Une adversaire à ma taille. C'est bien. Les choses devenaient trop faciles. Il rentra chez lui, les paumes moites, ne tenant plus en place. Tel un garçon qui se prépare pour un premier rendez-vous avec la fille de son cœur, il inventoria le contenu de ses armoires pour trouver la tenue adéquate. à cette différence près, qu'il s'évertuait à dénicher des vêtements élimés, tachés, conformes à l'image qu'on se fait d'un sans-abri. Ce ne fut pas facile, car sa mère, à sa dernière visite, avait fait le ménage dans ses placards, comme lorsqu'il était adolescent. Les années avaient beau passer, elle avait le plus grand mal à réaliser qu'il avait grandi, qu'il était devenu un homme. Elle se comporte avec moi comme si elle avait un ordre de perquisition perpétuelle en poche, songea-t-il. Jamais elle ne me reconnaîtra le moindre droit à l'intimité. Pour elle, je suis encore un collégien qui cache ses mauvaises lectures derrière sa table de chevet. Il finit par mettre la main sur un paquet de vêtements, jadis portés sur les parcours de golf, lorsqu'il s'entraînait en solitaire, avec l'espoir d'obtenir un par supérieur à celui de ses frères. Ses niveaux de golfeur lui paraissaient aujourd'hui dérisoires. Les défroques qu'il avait trouvées puaient la vieille sueur et le moisi. Il jugea cela parfait. Il suffirait de les maculer de cendres pour obtenir un déguisement convaincant. Il prit grand plaisir à se travestir. Sous ses hardes, il dissimula son arme de service et sa carte officielle, au cas où il aurait à justifier ses agissements auprès de la police. Il prit également un solide couteau à lame pliable rapporté d'un voyage dans les Highlands, ainsi qu'une lampe torche. S'estimant équipé de manière satisfaisante, il quitta l'appartement. Dans les ruines du Saint-Jobs, il se roula par terre, puis se barbouilla le visage et les mains pour se donner l'allure d'une épave jetée à la rue par les bombardements. Ses derniers préparatifs achevés, il descendit dans le métro. C'était pour lui un monde inconnu, car avant la guerre, il n'avait jamais utilisé ce moyen de transport réservé, mer Dixit, aux classes laborieuses et mal lavées. L'endroit lui plut tout de suite, avec son atmosphère de taupinière et de latrine. Après 5 minutes d'exploration, il réalisa que c'était le territoire rêvé pour un espion. On pouvait s'y perdre dans la foule et s'échapper en utilisant les tunnels. Il comprenait sans mal pourquoi Amy Sweetheart y avait trouvé refuge. Des quais s'élevait un tumulte de pleurs d'enfants, de cris d'adultes, de disputes de rires. Quelqu'un chantait une vieille ballade irlandaise. Le plus pénible, c'était la puanteur émanant des tunnels. Mais Rupert se dit qu'au bout d'un quart d'heure, il ferait comme les autres, il ne la sentirait plus. Le bon vieux théorème de la visite au zoo, songea-t-il en rabattant la visière de sa casquette sur ses sourcils. Les deux quais étaient bondés. Des représentants de l'armée du salut allaient et venaient au milieu de la cohue, poussant une roulante où il puisait une soupe grumeleuse dont Rupert n'aurait pas voulu pour son chien. Du moins s'il avait possédé un chien, ce que Mère lui avait toujours refusé. Personne ne lui prêta attention, il en fut soulagé. Du regard, il sonda la foule, essayant de localiser Amy Sweetheart. En vain. Il faisait trop sombre et il y avait trop de monde. Soudain, il éprouva une décharge électrique au long de la colonne vertébrale. Signe que son flair de chasseur avait repéré quelque chose à son insu. Retenant son souffle, il reprit son observation et passa en revue les visages qui défilaient devant lui. Bon sang, comment avait-il pu se montrer aussi distrait? C'était évident. Parmi les réfugiés circulaient des loups-garous, des espions nazis. Apparemment, rien ne permettait de soupçonner leur véritable identité, mais Rupert n'était pas dupe. Sa conviction était arrêtée. Si son instinct tirait la sonnette d'alarme, il se devait de l'écouter. Dieu, il n'aurait jamais pensé qu'il y en eût autant. Une, deux, trois, toutes des femmes, bien sûr. Jeunes, s'appliquant à jouer les épaves prostrées, elles se tenaient en retrait, astucieusement dissimulée au milieu de la foule hirsute. Elle traînait des cabas, des baluchons, des havresacs, qui leur servaient sans doute à transporter les explosifs destinés à piéger les tunnels serpentant sous la Tamise. Rupert en eut le souffle coupé. Ainsi, elles se déplaçaient en groupe, en meute, veillant les unes sur les autres. Il n'avait pas prévu cela. Les éliminer serait plus compliqué que prévu. Il lui faudrait au préalable séparer chaque fille de la horde s'il voulait éviter d'être mis en pièces. Toutefois, ce nouveau défi était loin de lui déplaire. Il avait fait ses premières armes, il se sentait fort, et il aspirait à se perfectionner, à devenir de plus en plus dangereux. Il baissa la tête et alla s'asseoir contre un mur en se demandant si les espionnes disposaient, elles aussi, d'un sixième sens pour le repérer. Nerveux, il s'appliqua à se décontracter tel un parachutiste attendant l'ordre de saut. « Ne pense à rien, se dit-il. Déconnecte-toi. C'est le meilleur moyen de devenir invisible. » Adossé au carrelage, il perdit la notion du temps. Les bruits et les odeurs cessèrent de l'importuner. Il nota que la communauté souterraine tentait de s'organiser pour tromper l'attente. Un joueur d'orgue de barbarie exhibait un petit singe costumé en horse guard en moulinant des rengaines datant de Jack l'Éventreur. Un apprenti comédien, grimpé sur une caisse retournée, déclamait du Shakespeare sous l'œil d'une dizaine de commères reprisant des chaussettes. De temps à autre, une querelle éclatait. En peu de jours, chacun avait développé un sens aigu du territoire et réagissait avec hargne aux premiers signes d'empiètement. Rupert, lui, attendait son heure. Il avait remarqué que chacun, à un moment ou à un autre, descendait sur les rails et s'enfonçait dans le tunnel de circulation afin de satisfaire en toute tranquillité ses besoins naturels. La prolifération des excréments forçait les réfugiés à s'éloigner de plus en plus de la station, si bien qu'il leur fallait désormais se soulager au cœur des ténèbres, là où personne ne pouvait les voir. « C'est là que je les attendrai, décida-t-il. Elles viendront à moi, tôt ou tard, et je les éliminerai l'une après l'autre. » Il se félicita d'avoir su imaginer une telle stratégie. Il était de plus en plus persuadé que les louves constituaient la garde prétorienne d'Amy Sweetheart. Oui, elles veillaient sur la pseudo-amnésique comme des chevaliers sur un monarque. Cette maudite rouquine était donc si importante à leurs yeux? L'avait-on chargée d'une mission capitale? Assassiner Churchill, par exemple. Il se promit de redoubler de vigilance et, mine de rien, descendit sur la voie pour gagner le tunnel. Il entra dans la zone obscure sans avoir été une seule fois interpellé. Là, il dut céder de sa lampe torche pour ne pas s'enliser dans le tapis d'excréments recouvrant le sol. Il dut finalement se résoudre à se déplacer en équilibre sur les rails jusqu'à l'une de ces niches creusées dans la paroi pour permettre aux ouvriers de s'abriter lors du passage des rames. Là, il s'installa à croupeton, éteignit sa torche et prit l'affût. Il s'écoula une heure avant que l'une des louves s'aventure dans le tunnel. Dès qu'elle fut accroupie, Rupert bondit hors de sa cachette, se déplaça sur le rail avec la souplesse d'un funambule et la poignarda. Depuis Britt Galloway, il avait amélioré sa technique. L'espionne n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Le jeune homme fouilla le cabas dont sa victime ne s'était pas séparée, de peur sans doute qu'on le lui vole, mais ne dénicha aucun explosif, pas davantage d'armes ou de détonateurs. Décidément, les gardes étaient prudentes. Elles prenaient soin de ne conserver sur elles aucun objet compromettant. Les charges étaient à coup sûr dissimulées quelque part dans la station. Un peu déçu, il tira le cadavre jusqu'à la niche et reprit l'affût. Au bout d'un moment, les autres louves s'inquiéteraient fatalement de la disparition de leur sœur et se lanceraient à sa recherche. Cette fois, elles ne viendraient pas les mains vides, mais Rupert n'avait pas peur. À chaque nouvelle exécution, ses pouvoirs grandissaient.